www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Alors nous sommes ici à Unimail aujourd'hui pour parler des rencontres publiques et internationales de Genève, des exils, dont Valéria va nous présenter un petit peu le contenu et la forme également. Et puis nous avons en ta compagnie des artistes qui viennent d'Argentine, si j'ai bien compris,
oui.
Que tu pourras, et du coup tu feras également la traductrice, puisque mon espagnol n'étant pas suffisant pour pouvoir le faire, c'est toi qui va faire ce travail-là. Voudrais-tu peut-être que l'on commence par présenter qu'est-ce que ces rencontres, et ensuite effectivement on ajoutera la composante artistique à ces rencontres avec les personnes qui sont là. Ça te va comme ça?
Oui, ça va très bien.
Alors, on y va. Alors, ce programme, donc des rencontres internationales publiques de Genève, des exils, est organisé par l'Université libre autonome et c'est dans le cadre de l'enseignement du Collège international de philosophie. C'est bien ça?
Oui, en fait, l'Université libre autonome est un projet de ce programme des exils, de l'exil. Et, c'est un programme qui a été organisé au départ par le Collège international de philosophie, mais, et, surtout en particulier Marie-Claire Calotchop, une femme exceptionnelle, et c'est un programme qui prend fin maintenant. Ça fait en tout cas depuis 2010 que je fréquente Marie-Claire, qui organise ce type de rencontres et de réflexions autour, partant de l'exil, et partant surtout de une proposition qui serait de dire, bon, évidemment, il y a les exils historiques, il y a la migration, il y a qui est un problème mondial, de la globalisation de toute façon. Et il y a aussi l'exil comme catégorie qui permet d'éclairer certaines limitations ou un aspect de notre condition en tant que citoyen dans un monde globalisé. Donc, quelque part, la dernière rencontre en 2017, la présupposition était, enfin, le logo était « Nous serions, nous tous, des exilés ». Dans le sens de, est-ce que c'est profitable de penser à notre propre condition en solidarité avec tous les exilés du monde, dans le sens où, même en étant citoyen suisse, genevois et pouvant voter, ayant accès à l'AVS, etc., etc., nous vivons aussi dans une sorte d'exil créé par la globalisation, comme expérience hein, à la sphère expérience du rapport ou des limites du rapport à la sphère politique, etc.
Est-ce à dire que l'exil n'est pas géographique, il peut être différent?
C'est-à-dire, voilà, il y a l'exil évidemment historique qui n'est pas comparable parce que les exilés historiques qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine vivent une situation particulière. Et puis il y a l'exil comme paradigme qui nous permet d'éclairer notre expérience politique. D'où aussi l'idée que le désexil, qui serait un travail sur l'exil, non, la phase d'après l'exil, ça a une longue histoire, en tout cas en Amérique latine, mais c'est un concept qu'on a utilisé comme, disons, comment est-ce qu'on pense, si vous voulez, l'émancipation ou la lutte à partir d'une conversion de l'expérience d'être exilé. Voilà, ça serait un peu le point de départ. Mais cette rencontre en particulier, c'est vraiment pour fermer ce cycle de réflexion et penser à la suite. Marie-Claire Calotchop, qui est donc cette philosophe, qui est une philosophe très engagée, qui a été militante, donc pas seulement intellectuelle, mais intellectuelle engagée et militante de rue aussi. Elle se retire un peu, elle ne veut plus organiser ce genre de rencontre. Et là, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on continue ce réseau de réflexion suivant toujours la même formule qui nous intéresse beaucoup, qui est de réunir des chercheurs du monde institutionnel académique avec des gens qui réfléchissent en dehors de l'UNI.
Très bien. Alors, il y a quelques mots-clés qui sont annoncés en gros sur l'affiche.
Oui.
Et je pense qu'ils sont du coup, ils sont là pas pour rien et que c'est important peut-être de s'y arrêter quelques instants. Après, on ira vers le programme. Hein. Alors, ces mots-clés sont mémoire, lutte, expérience, histoire et projet. Pourquoi ces mots-là et pas d'autres mots? J'imagine qu'il a fallu faire un filtre.
Oui, c'est-à-dire que les différentes... toutes les rencontres qui se sont... Ou, disons, tous les colloques et les séminaires qui ont eu lieu depuis le début de ce programme autour de l'exil... ont pris comme axe de réflexion ou d'abordage donc soit l'exil en tant que ou le désexil en tant que projet, l'exil ou le désexil en tant qu'expérience, en tant que lutte, en tant que l'histoire de l'exil et du désexil, la mémoire, non, et c'est un peu les angles d'approche selon les différentes disciplines, les personnes. Il y a toujours eu une partie de ces conférences ou colloques où il était question d'analyser des expériences, où il était question de présenter l'histoire ou bien les luttes associées aussi à différents moments.
Ça me permet, la question était là pour faire la transition vers le programme en disant, tiens, on commence par le jeudi 6 juin à l'Université ouvrière de Genève, qui se trouve juste derrière la gare Cornavin, place des Grottes, je crois que c'est. Hein,
oui.
Voilà, place des Grottes, avec un mémoire, avec un film, voilà, j'ai lâché le mot, avec un film qui justement aborde le thème de la mémoire. Mais d'où elle est la mémoire ? La mémoire me fait mal, d'une certaine manière, c'est le titre, la traduction du titre, qui est un film, un long métrage documentaire de Yara Heredia, qui est son deuxième long métrage documentaire, qui justement aborde le thème de la mémoire.
Oui, absolument. Et qui en plus est aussi une forme de rendre hommage de toute façon à la langue, disons, à la culture de l'exil à Genève, hein, qui a accueilli beaucoup d'exilés chiliens, aussi argentins, mais disons, les exilés chiliens sont très présents. Et aussi au rapport à la relation qu'a maintenue Marie-Claire Kalotchop avec le Chili.
Oui. En particulier. Donc on sait que voilà, à l'époque, en 73, le 11 septembre précisément, il y a eu ce putsch militaire mené par Pinochet à l'encontre d'Allende.
Oui.
Des réfugiés ont pu heureusement quitter et se sont réfugiés en Suisse.
Oui.
Et certains d'entre eux ont pu trouver justement refuge en Suisse. Pas toutes et tous, mais un certain nombre en tout cas. Cela dit, ici, ces personnes-là ont continué de mener la lutte.
Oui. S'organisent, mais ils se sont aussi intégrés dans des luttes locales, hein. C'est pas seulement...
Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que là, il y a un rapport particulier entre l'exil, le désexil et la mémoire ? Parce que c'est vrai que quand on est dans un exil forcé, un départ forcé, peut-être qu'on y laisse, à l'endroit d'où on vient, on y laisse une partie de soi-même, une partie de sa mémoire, et c'est peut-être ça également qui touche ensuite les personnes en exil.
Oui, disons, quand on part, bien sûr, c'est pas qu'on laisse la mémoire, on va laisser une mémoire partagée. Mm-hmm. On prend l'exemple des enfants partis avec les parents exilés. Les enfants, ce qu'ils perdent, c'est la mémoire que les autres avaient d'eux enfants. Donc, ce qu'on perd, c'est justement cette plateforme de partage du souvenir qui est proprement, à proprement parler, ce qu'on appelle une mémoire collective. On perd cet accès-là. La mémoire semble rétrécie à quelque chose de très individuel, très effiloché, et dans le pays d'accueil, cela prend du temps pour reconstituer une plateforme de partage de mémoire. Ça, c'est une chose. On perd aussi un certain rapport à la temporalité. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'exil est souvent... À mesure où il est forcé pour des raisons politiques, pour les enfants qui suivent les parents, parce qu'on doit suivre les parents. Et ce qui arrive, c'est que le temps ou la linéarité qui avant se vivait sans remarquer, comme il y a une rupture, en fait, le rapport même au temps est dénaturalisé et on se rend compte que le temps n'est pas linéaire, il n'est pas homogène, il est cassé. On ne peut jamais reconstituer une linéarité. Puis, philosophiquement parlant, si vous voulez, le temps, il n'est pas linéaire, en fait. C'est vraiment seulement une question culturelle historique.
Mmh.
Mais c'est vrai que ça, c'est une expérience que, de la même manière qu'on va quand même reconstituer, régénérer une mémoire collective ou une plateforme, un espace de mémoire collective, on doit aussi retravailler à ce rapport au temps ou à cette notion du temps et à la continuité. C'est quoi la continuité ? Le futur, comment un futur qui ne s'appuie pas tout de suite sur un passé, comment est-ce qu'on peut le projeter ? Enfin, c'est un travail, c'est un long processus très créatif. aussi.
Mmh. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a énormément d'enjeux qui se passent au travers et autour de cette notion d'exil.
Oui.
Concernant le désexil, voudrais-tu préciser, parce qu'effectivement l'exil, je pense que les personnes qui écoutent ce podcast vont assez facilement se le représenter, d'autant plus que on vit une période un petit peu délicate hein, concernant les personnes migrantes, etc. Mais qu'est-ce que signifie le mot désexil ?
Alors, en fait, c'est un terme qui vient, je pense, historiquement, ça a été inventé par un Uruguayen, un écrivain uruguayen, Mario Benedetti, qui el desexilio, et c'était pour appeler ça nommait ce qui arrivait aux exilés de retour en Uruguay, pas seulement en Uruguay, non, mais de retour au pays d'origine, où en fait ils passent par une deuxième phase d'exil, puisqu'il n'y a pas de véritable retour, et qu'en rentrant chez eux, ils se rendent compte que le monde avait changé, les gens avaient changé, les rapports avaient changé, ils n'avaient pas la même place, même s'ils prenaient le même appartement, et c'était considéré comme un deuxième exil et un processus de... d'accoutumance comme ça. Nous, on l'a pris un peu comme le travail sur l'exil, sur l'expérience de l'exil, pour sortir, non, pas sortir de l'exil, mais comme le travail créatif sur l'exil. On a essayé de le sortir un peu de cette idée que à l'exil ne peut suivre qu'un deuxième exil et ensuite un autre exil et un exil et un exil, mais plutôt que non, l'exil se transforme et le processus de transformation de l'exil, on l'a appelé des exils.
Très bien. Ce processus, selon toi, prend-il fin un jour ou pas ? Ou dans le désexil, dans le retour à la terre qui a connu, enfin qui a vu les personnes quitter ce territoire, est-ce qu'on a un processus, une réconciliation à un moment donné, ou est-ce que c'est toujours après, lorsque l'on revient, on peut dire que le processus du désexil est quelque chose qui continue ? Ou est-ce que, selon toi, il prend fin à un moment donné, on peut dire, voilà, j'ai recouvré ce passé, j'ai bouclé la boucle peut-être ? Ou enfin plein de processus mentaux qui pourraient surgir. Alors voilà, selon toi, est-ce qu'effectivement ils surgissent ou est-ce que dans le désexil, il y a toujours quand même cette continuité ?
Je pense que ça dépend.
Des vraiment personnes.
Des personnes, des, ouais, des situations, des ouais. J'imagine que pour un exilé syrien qui retourne dans son village non existant, le désexil sera un long processus
qui peut enfin, dépasser.
Probablement,
voilà.
J'imagine que pour d'autres, selon dans quelles conditions on retourne, etc., ça peut soit boucler, soit ouvrir. En tant que concept, il est pas, c'est pas un concept qui, c'est, ça ne nomme pas la fin.
Mmh, voilà.
Mais
c'est
un processus.
Exactement.
C'est une démarche. Ouais. Une démarche.
Peut-on également dire que ça nomme. Tu as parlé des temporalités. Effectivement, cette temporalité, elle diffère selon où on est, qui on est et comment on est. Tu prends l'exemple de la personne syrienne qui peut-être serait réfugiée, admettons, ici en Suisse. Le temps va s'écouler d'une certaine manière, alors qu'en Syrie, là où le temps ne s'était peut-être pas cristallisé au même moment qu'ici, eh bien, le temps va s'écouler différemment, effectivement, avec un village qui peut être détruit, qui peut être, pourquoi pas, reconstruit, avec des projets qui peuvent renaître ou pas. Donc, cette notion du temps, elle est également centrale dans ces rencontres.
Oui. Pas nécessairement toujours implicite, non ? Disons, ce qui est en jeu, c'est quand même le futur. Hein, notre futur commun.
Oui.
Qui est en jeu, pas seulement celui individuel de chaque exilé, mais là, dans ces rencontres, on essaye de... justement, de mettre en lien des préoccupations sur les futurs individuels et l'idée d'une construction collective d'un futur qui, justement, ne devrait pas être la suite déterminée de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. D'un côté, oui, on aimerait que ce futur reflète certains rêves, certaines valeurs, des intentions, des projets, mais certainement pas le projet, si vous voulez, pour le dire de manière un peu... grosso modo, capitaliste, globalisé, extractiviste d'aujourd'hui.
Oui.
Donc, le futur, c'est difficile. Comment est-ce qu'on le projette pour que ça ne soit pas la continuation d'un status quo ?
Voilà. Mmh. Qu'en est-il de la... Comment est-ce que toi, tu lis la situation que l'on vit ici en Europe avec Voilà, les migrants qui traversent la Méditerranée, qui pour beaucoup d'entre eux meurent en Méditerranée, maintenant sur les montagnes, des migrants qui sont menés par des personnes qui les dirigent au sommet des montagnes et qui pour certains meurent ou en tout cas sont mutilés, avec tout ce que ça implique dans la mémoire et dans la construction d'un futur qui peut devenir de plus en plus hypothétique finalement après les situations et les drames que l'on vit. De quelle manière est-ce que toi tu observes cette situation ?
Comment est-ce qu'on le vit ? Je crois que ça met en évidence un état de presque un rapport un peu schizophrénique à notre réalité, non ? Ça relève presque du fantastique. C'est-à-dire cette idée que le quotidien, qui devrait être tout tranquille, qui devrait être justement ce qui est, et qui à un certain niveau, c'est quand même un des quotidiens les plus sécuritaires du monde, la Suisse. Là, on est quand même en extrême sécurité. Mais sous cette sécurité, on sait qu'il y a des terribles histoires et qu'on y participe, qu'on est quelque part complice sans être vraiment complice, mais on ne sait pas quoi faire. Mais moi, disons, les gens que je connais qui ont une conscience de ces phénomènes, en même temps un fort sentiment d'impuissance, en même temps, évidemment, on se réfugie un peu dans les peurs et le confort, peut-être, mais ça crée un sentiment un peu un malaise, certainement, un inconfort, un malaise. Comme je travaille sur la littérature, je dirais là, on est en plein dans le fantastique, non ? Mmh. Où tout d'un coup, tout ce qu'il y a de plus normal peut sembler être menaçant. Mais c'est parce que c'est invisibilisé. Il n'y a pas une réflexion sur la véritable acceptation et intégration des migrants.
Absolument. Qu'en est-il selon toi ? Puis ensuite, on va vraiment revenir au programme hein, de ces journées. Mais pour en terminer, concernant, parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, et effectivement, c'est extrêmement intéressant de penser, de réfléchir cette notion, cette situation d'exil et de désexil. Mais concernant récemment, on a observé qu'il y a une criminalisation des personnes qui commettent ce qu'on appelle des délits de solidarité. C'est-à-dire qui héberge ou aide tout simplement des personnes à traverser des frontières ou à trouver un refuge. Est-ce qu'on n'est pas dans une société où il va être de plus en plus difficile même de parler de ces notions d'exil parce qu'elles sont criminalisées, elles deviennent des délits. Est-ce qu'il n'y a pas une intention quelque part de vouloir mettre vraiment au banc et que ces discussions-là même soient assimilées à des discussions sur des choses délictuelles et donc repoussées dans les confins, dans les marges ?
Oui, je crois que c'est soit délictuel, soit irréaliste. Parce que vont dire... un des arguments contre l'acceptation et l'intégration des migrants, c'est « mais on ne peut pas !» On ne peut pas accepter tout le monde, non ? Il y a derrière une vision d'une invasion, non ? Que tout le monde veut venir en Suisse, parce que c'est cet endroit absolument magnifique, alors qu'en fait, la plupart des gens veulent rester chez eux, non ? C'est ce qu'ils aimeraient, c'est avoir les bonnes conditions pour pouvoir rester et ensuite circuler à leur guise, mais certainement pas, non ? Finir parachuter à Genève, où pourtant... C'est pas le pire endroit.
Non, oui.
Je suis toujours étonnée par le degré de tolérance qu'il y a à Genève. Hein. Oui. Ayant été moi-même migrante, hein, je trouve que Genève a beaucoup changé et a absorbé des couches de différences culturelles incroyables, avec peu de violence, relativement peu de violence. Quoi.
Ok. Ouais. Pour en terminer, n'y a-t-il pas là également un combat sémantique ? Effectivement, en termes de vocabulaire, on sait comme les mots convoquent la réflexion, que ce sont les outils de la réflexion, ce avec quoi on forge ces briques de la pensée. N'y a-t-il pas là également quelque chose de biaisé, de corrompu, ou en tout cas d'orienté d'une certaine manière en utilisant peut-être justement certains mots qui s'adressent à certaines personnes ? On parle effectivement souvent de réfugiés économiques, pour peut-être faire peur. On parlait pour d'autres types de populations d'expatriés, ce qui change complètement la donne. Lorsque l'on s'adresse à un expatrié, est convoqué une autre sémantique que lorsque l'on parle à un réfugié économique, qui lui viendrait, pourquoi pas, potentiellement grappiller des choses. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas également, n'est-ce pas là également le territoire d'un combat sémantique ?
sémantique et de lutte de classe, là. Vraiment. Parce que, effectivement, l'expat qui vient travailler à Genève vient aussi prendre de l'argent à Genève. Hein. C'est... L'indocumenté qui vient chercher un salaire à Genève vient aussi, enfin, veut aussi travailler, en fin de compte. Pourquoi, à partir d'une certaine classe sociale, c'est un expat et puis une autre classe sociale, c'est... On est d'accord, bien sûr, mais c'est sûr aussi que. L'économie, la politique, c'est absolument indissociable. On peut pas. Moi, je résiste. J'aime pas trop le mot migrant. Hein. Ça, c'est un peu. Ça, c'est d'une fausse neutralité. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on est tous des réfugiés. C'est tous des réfugiés économiques ou politiques ou disons, ils ont été. On a été chassés, non c'est... Mm-hmm. Mais évidemment, venir par la force dans de mauvaises conditions et venir par choix. Change justement le vécu de, bah, du voyage. Quoi.
Et la représentation ensuite qu'on va s'en faire.
Exactement. Bien sûr. Ouais.
Alors on revient au programme de ces rencontres internationales publiques de Genève, organisées donc par l'Université libre autonome, hein, comme on l'a dit. Jeudi 6 juin, ce sera à 18h, place des Grottes 3. Là j'ai retrouvé l'adresse, juste derrière la gare Cornavin. La première genevoise, du film Duele la memoria de Yara Heredia et de Bastien Genoux. Je précise pour les personnes qui écoutent ce podcast que l'entretien, on a fait un long entretien avec Yala qui était un entretien fantastique qui est disponible en podcast sur le site de Libre Radio. Ça, c'est le premier moment. À ce moment-là, il y aura peut-être une petite discussion après ou quelque chose est prévu ou...
Certainement, oui, un débat.
Voilà, un débat. Ok, ça c'est pour le premier jour. Voudrais-tu ajouter quelque chose à ce propos ou on passe directement au vendredi ?
Tout simplement dire que ce programme sur l'exil était un programme, disons, c'est des séminaires aussi mobiles. Hein, qui ont eu lieu dans diverses institutions, dont l'Université ouvrière. Et que donc, nous sommes très reconnaissants de la participation. Ouais. Et moi, personnellement, travaillant à l'Université de Genève, je suis aussi très fière de participer aussi avec l'Université ouvrière.
L'UOG, ouais, dont on sait le travail qui est fait, vis-à-vis notamment des personnes en déplacement, personnes réfugiées également. Ouais. Alors, le vendredi 7 juin, on revient à l'université ici à Unimail, donc ce sera dans la salle MR070. Des exils de l'exil, présentation des livres, débat sur le désexil de l'exil et avec une soirée ensuite festive en musique, c'est ça ?
Oui, ce sera la partie un peu historique avec la publication des derniers trois livres ferme, disons, on clôt une phase et l'idée est d'ouvrir sur justement le samedi où il s'agira plus de imaginer comment on continue cette espèce de réflexion, enfin ce processus de réflexion quand même militante.
Bien sûr. Et puis ensuite, il y a voilà, cette projection vers un futur, vers des futurs, autour d'aspirations communes qui se seraient dégagées pendant ces rencontres. S'il fallait faire, d'une certaine manière, un bilan de ce cheminement qui a été fait pendant ces rencontres, enfin, durant les différents moments de réflexion commune, quel serait-il ce bilan selon toi ? Est-ce qu'il est plutôt positif ? Tu sens que voilà, le questionnement a pu surgir, que des réponses ont pu être apportées, s'il le faut, peut-être qu'il faut plutôt laisser des choses en suspens. Enfin, quel est ton ressenti à ce propos ?
Pour moi, bon, je pense qu'il y a, disons, il y a eu différents moments au fil de ces programmes, différentes... perspective, hein. Il y a les gens qui ont voyagé depuis le Chili, le Brésil, en Turquie, Paris, donc ça a été aussi un séminaire mobile. Ça. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus frappé, le plus apporté, c'est de discuter et réfléchir et écouter, donc de voir sortir de ma propre terminologie, de voir parler de façon à être comprise par des spécialistes d'autres domaines ou de non. Donc, pas seulement l'interdisciplinarité, mais l'intersociabilité, c'est-à-dire parler à différents groupes sociaux. Je me rappelle d'avoir été dans le premier colloque, je me suis retrouvée dans un atelier où on discutait sur le déterminisme avec un flic, policier. Moi, je sortais des squats. Je me disais, waouh, ça m'a vraiment ouvert. Donc c'était une expérience très révélatrice, non, qui m'a vraiment ouvert. Voilà, donc je pense que ça c'est ce qui m'a marqué, mais certainement qu'il y a d'autres personnes à qui
certainement,
ça...
Certainement, oui, mais c'est justement, d'autres. C'est bien d'avoir voilà, les ressentis individuels des personnes. Tu parles d'intersectionnalité à un moment donné, ça c'est une notion également centrale, je pense. Hein.
Oui, ouais. Bien sûr, il faut, on essaye de tenir en compte, il faut penser pas seulement genre, pas seulement race, pas seulement classe, mais...
Ouais. Y aurait-il une origine commune à ces mots qui nous assiègent dans ce monde ? Voilà, est-ce que par exemple on peut parler de lutte des classes comme d'une centralité dans les luttes ou dans les choses à démanteler ou en tout cas dont il faut opérer urgemment une critique radicale?
Je sais pas, je donne vraiment mon humble avis là.
Oui, tout à fait.
Je pense qu'on a tendance à oublier, enfin maintenant c'est pas à la mode la lutte des classes. Et c'est vrai que c'est dommage, je pense que. Il faut constamment mettre sur le tapis la différence des salaires, les inégalités, surtout dans les milieux d'intellectuels européens où, qui sont quand même, nous faisons partie d'une élite économique aussi. On n'est pas dans les 1% de la globalisation, mais on est quand même dans une élite. Et puis qu'il faut quand même se rappeler pourquoi est-ce qu'on est payé autant ou peut-être pas assez. Enfin, non. Mais quand même se rappeler de toutes ces questions, à quelle classe sociale on en appartient, tout ça. Ceci dit, non, penser seulement en termes de lutte des classes n'est pas non plus la solution. Moi, j'aime bien l'idée que j'ai entendu récemment la formule en anglais, hein, entangled modernities, qui serait quelque chose comme les modernités emmêlées. J'aime bien l'idée de emmêlées. On est justement... Ma façon de voir, de percevoir, c'est qu'on est dans des situations où les choses sont très emmêlées. Les luttes sont emmêlées, les objets pour lesquels on lutte sont emmêlés. Et puis la question qu'on doit se poser, ou je me pose, c'est est-ce que j'essaye de démêler ça, puis prendre objet par objet, ou est-ce que j'essaye de penser à une réponse ou une subjectivité, un positionnement qui me permette d'adresser l'emmêlement.
Quand tu dis emmêlé, est-ce que tu sous-entends également confus, compliqué
et, confus et compliqué, ouais.
Et en fait, je te pose cette question parce que selon toi, puis ensuite, effectivement, on passera aux artistes hein, qui sont parmi nous. Est-ce que tu intègres à cela tout ce qui nous assiège en termes d'information, de désinformation, de voilà, les fake news, l'infobésité? Parce que c'est vrai que depuis le développement des réseaux sociaux, on a en même temps, on sent quelque chose qui a trait à la liberté, hein, du fait de cette possibilité de communiquer rapidement, d'être extrêmement critique, mais également, voilà, ce qu'on appelle des opérations sous couvert, qui ne sont pas d'aujourd'hui, hein, mais donc les opérations sous couvert, les false flags, c'est-à-dire de provoquer des événements en attribuant des responsabilités à d'autres, à des opposants ou à des adversaires politiques, par exemple. Voilà, selon toi, est-ce que ce qu'il y a d'important également dans les rencontres publiques, c'est de créer ce sens, de renouveler un esprit critique qui parfois fait défaut.
Oui, ça nous permet de nous reposer la question de si on devait prendre parti, faut-il prendre parti d'abord ?
D'abord, oui.
Et par rapport à quoi, sur quoi et avec qui ? Avec qui je me solidarise ? Et prendre parti, c'est pas tout à fait la même chose que se solidariser. C'est pas. Donc, ça permet de nuancer cette idée de radicalisation ou polarisation que les médias travaillent beaucoup sur la polarisation. Nous, on aimerait plutôt partir sur la nuance, mais aussi la position que c'est pas parce que c'est nuancé qu'on fait rien.
Tout à fait. Donc on observe en tout cas que la réalité est plus complexe qu'on veut parfois nous le faire croire.
Oui.
Et que voilà, il suffirait...
Enfin, mais
en tout
parfois,
cas,
elle est aussi plus simple. Parfois,
elle est plus simple, c'est vrai. Tout à fait.
Selon comment on voit, il y a les 1%, il y a les 1%. Il y a parfois des responsabilités qui sont claires et qui sont diluées par les médias. Parfois, il faut aussi se dire non.
En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'un travail est à mener à ce propos et que c'est pas un parmi les travaux que vous opérez au moment de ces rencontres. On crée du sens, on fait sens ensemble.
www.libradio.org, la radio qui vient à ta rencontre.